tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement qui ne vous incitera pas à changer de montre même si on passe à l'heure d'été, surtout si c'est une Rolex. Avec aujourd'hui à la technique de France Bleu Provence, on les remercie vraiment beaucoup, Patrice Lecomte et Philippe David, assistés de Sophie Ledoré, Jean-Christophe Pinaza, c'est Xavier Pestugia qui réalise cette émission. Et tout ceci débute bien sûr par une petite humeur en direct de Marseille du festival Sciences Frontières qui fête ses 25 ans. Nous sommes donc réunis pour parler du futur, version durable, soutenable, avec notre question à 1000 euros, où en serons-nous en 2034, autrement dit dans 25 ans. Marseille donc, 50 km de rivage sur la Méditerranée, 2800 heures de soleil par an, le pistou, la bouillabaisse et pas le moindre moule frite à l'horizon. On l'a compris, ici c'est pas vraiment le Nord. Marseille, la ville qui s'est installée les pieds dans l'eau parmi les oliviers, les cigales, les rochers. Une ville qui monte jusqu'à la Bonne Mère comme des gradins pour assister au match. Oui, mais mieux que le classique OM Paris Saint-Germain, la rencontre du Mistral et des eaux salées. Le grand tournoi des puffins, des gabions, des cormorans venus nicher dans les îles de Frioul, de Rioux et du Planier. Marseille, on le sait, c'est la doyenne des villes françaises qui fête ses 2609 printemps. Alors on va passer très vite sur l'histoire que vous connaissez. Les Phocéens chassés de leur pays qui font le tour de la Méditerranée à la recherche d'un coin sympa pour se bâtir une ville avec vue sur la mer. Youpi, ils l'ont trouvé. Autre temps, autre mœurs, voyez-vous. Après les Phocéens, ce sera peut-être bientôt notre tour, les descendants des Gaulois, d'être chassés de notre petite planète si nous continuons de considérer, comme George Bush, que notre train de vie n'est pas négociable. Ce genre de raisonnement, on le sait, c'est ce qui nous a conduit plus d'une civilisation dans le mur. On va donc faire attention et réunion d'urgence du G20 à Londres cette semaine. Le G20, autrement dit, le conseil d'administration de la planète pour éviter la sortie de route. Et au menu du dîner organisé par Gordon Brown, c'était mercredi soir, il y avait de l'agneau gallois, aux asperges et aux pommes de terre de l'île de Jersey. Un paradis fiscal qui se reconvertit dans l'agriculture, c'est quand même, cher Jean-Marie Pelt, extrêmement bon signe. Avec entre la poire et le fromage, le rapport Stern-Eden offert pour une relance verte. Alors une relance du genre, on met entre parenthèses la rentabilité à court terme et on regarde un peu plus loin. Comme à Dijon, je tiens à les citer, cette semaine où on a inauguré jeudi une petite tour de bureau à énergie positive, et bien c'est une belle première. Bref, nous explique Nicolas Stern, on mise le pactole sur le futur. Alors le futur, évidemment, c'est un concept qui n'est pas du tout évident pour les économistes. Hein. C'est un truc qui n'est même pas coté en bourse, il n'y a pas de stock option, il n'y a pas de retraite dorée. Et pourtant, miser sur le futur, ça peut rapporter gros pour les générations suivantes. Pendant que son mari, le président, jonglait avec les milliards de dollars, Michelle Obama dévoilait le budget de son jardin potager bio dans le parc de la Maison Blanche. 200 $ pour les graines, les coccinelles s'occuperont des pucerons et les enfants d'une école du quartier feront les jardiniers. Bref, un jardin bio au pays de Monsanto. Et si c'était un peu ça le futur à Marseille comme ailleurs sur ce petit monde ? Alors Jean-Marie Pelt est avec nous, vous le savez, dans ce infidèle de ce festival Sciences Frontières. Une femme à ses côtés qui s'appelle Elisabeth Boredon, vous avez déjà entendu sur France Inter. Elisabeth Boredon, bonjour à vous.
Bonjour.
On va dire que vous êtes un peu une spécialiste quand même de la chimie verte. La chimie verte, qu'est-ce que c'est ?
C'est une chimie qui se veut être plus propre, plus efficace et plus sûre.
Voilà. Donc on va en parler. Oui, parce qu'en
plus, on va parler de tout ça.
Et oui, bien sûr. Voilà. On a quand même quelques petites données physiques auxquelles on n'échappera pas. Jean-Yves Casga. Alors Jean-Yves Casga, c'est à la fois le directeur de ce festival depuis 25 ans, un homme de la région, hein. C'est un homme de Sisteron quand même à l'origine, ancien camarade de France Inter, aujourd'hui journaliste aussi environnemental et scientifique à Radio France, à RFI. Alors, l'état d'esprit, Sciences Frontières, les frontières de la science en deux mots.
En deux mots, c'est, je pense, pas en explorant quelque chose d'éclairé qu'on a des chances de trouver quelque chose, c'est plutôt en allant explorer ce qui est là où il n'y a pas de lumière, qu'on a des chances de progresser, donc toujours sur les marges, sur les frontières. Et comme je crois fondamentalement que si notre civilisation est arrivée là où elle en est, c'est quand même bien parce qu'elle a produit de l'intelligence. Mais alors ça, c'est la version positive. Mais que la version négative, c'est que on voit bien aussi qu'elle a produit quelques excès. Eh bien, je me dis que les frontières de la science, c'est peut-être ce qui peut permettre de faire en sorte de, en osant franchir les bords, de faire en sorte que peut-être on dépasse le défi qui nous est lancé.
Alors c'est intéressant Jean-Marie Pell, parce que en fait quand on est dans les quatre carreaux de la marge, on est dans ces jachères et c'est là que naissent les idées. C'est pas forcément dans la pleine page, c'est pas forcément dans la grande prairie céréalière. C'est là que ça bouge.
Ouais, écoutez, d'abord bonjour à tout le monde. Ce qui me frappe, c'est que nous sommes dans une période où ça bouge très très fort. Alors il y a deux manières de vivre notre époque. La première manière, c'est de regarder le G20. Donc on voit les hommes d'État qui se penchent sur le sort d'une planète dont nous avons quand même contribué à produire un dérèglement formidable. Et c'est réconfortant de voir qu'ils regardent ça avec beaucoup de soucis pour l'avenir. Par contre, ce qui me frappe, c'est que j'ai quand même souvent l'impression que l'idée qui n'est pas dite, mais qui est au fond des cœurs, c'est que pourvu que tout redevienne comme avant.
C'est-à-dire de réparer le système financier, restaurer la croissance et ne pas changer forcément les fondamentaux.
Non, que les paradis fiscaux aient un peu moins d'argent pour que les États en aient un peu plus. C'est un peu ça l'idée que je ressens. Et moi, je pense que, justement, il faut surtout que tout ne redevienne pas comme avant et que l'immense évolution de l'opinion publique, les gens qui ont compris que nous devons changer de culture si nous voulons rester sur la Terre et surtout si nous voulons que nos enfants y vivent convenablement, il faut que tout ce mouvement d'opinion soit pris en considération. Alors, je voudrais prendre deux exemples de ces tout derniers jours. J'ai fait une conférence dans une école de management international à Strasbourg, très cotée, très attentif à ces idées nouvelles. Et le soir, j'ai dîné avec les responsables du journal local, qui s'appelle Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Et ils ont fait quelque chose de très extraordinaire. Ils ont mis en scène le sommet de l'OTAN avec les milliers et les milliers de policiers et les milliers et milliers de manifestants altermondialistes. Et en face, dans le journal, ils ont fait une demi-page sur le tout petit hamster qui est un animal qui n'existe plus au monde qu'en Alsace, qu'on veut sauver.
Le grand hamster d'Alsace.
Le grand hamster d'Europe, ça, oui. Ouais. Et alors, ils ont mis une photo du grand hamster qui est mignon comme tout. Et je trouvais cette présentation à la fois de cette petite bête innocente, il n'en reste plus que 400 parce qu'on met du maïs partout et que cette pauvre bête ne sait pas manger le maïs. Donc l'État bienveillant et la région Alsace bienveillante ont mis de la luzerne pour que le pauvre hamster puisse survivre et en face tous les chefs d'État. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors je suis arrivé à Marseille, je suis arrivé par des trains complexes, parce que
ça c'est mis complexe. 10 heures.
J'ai mis 10 heures de baisse à Marseille. Oui. Je voyage beaucoup en train. J'ai pris cette décision de voyager en train. Je me repose la question, vais-je continuer à voyager en train? J'ai mis 7h30 d'Annecy à Metz, 7h15 de Metz à Annecy cette semaine.
On est tombé dans
j'ai
un mauvais
mis 10
jour.
Heures pour venir à Marseille. Je me pose des questions.
Voilà.
Je me pose des questions. Alors, dans le train, un de mes très bons amis, Patrice Costa, qui est un grand journaliste, mais qui est aussi un grand reporter, c'est une profession qui n'existe pratiquement plus dans les journaux, voyage dans le monde entier pour étudier l'évolution de la biodiversité. Et il a écrit un bouquin où il met en scène les bushmen du fin fond de la Namibie. Et il écrit admirablement bien, son bouquin n'est pas paru, c'est un manuscrit, et j'ai lu dans le train, ce qui m'a passé mon temps agréablement, l'histoire de ces bushmen qui vivent en relation intime avec la nature, qui ont une profonde intelligence de la nature, qui consomment au minimum, qui sont en harmonie. Et quand je suis arrivé à Marseille, j'ai regardé une émission que j'aime bien, Thalassa, et j'ai vu un reportage sur l'île Longue à Brest, où on a vu l'arsenal nucléaire. Et je me suis dit, mais comment est-il possible que l'humanité soit devenue comme ça? Comment ça se fait que, partant à la fois de la vie telle qu'elle est illustrée par l'hamster et partant de l'humanité première telle qu'elle est illustrée par les bushmen, nous sommes devenus aussi effroyablement agressifs, à la fois sur nous-mêmes, puisque nous pouvons nous détruire, et sur la nature qui nous entoure? Et ça, c'est une grande question quand même, parce que figurez-vous que j'ai lu aussi que nous disposions de 40 fois ce qui est nécessaire en nucléaire pour détruire l'humanité définitivement. C'est quand même une bonne question. Pourquoi avons-nous fait ça? Pourquoi faisons-nous ça?
Jean-Yves Casgar, alors si vous n'avez pas forcément la réponse, mais bon, on sait.
Non, mais je crois que ça répond à la question initiale. C'est peut-être parce qu'on n'explore pas assez les frontières et beaucoup trop l'intérieur de la page blanche, comme disait Denis.
Et alors, ce qui est, de toute façon, on est face à un homme dont le travail a toujours été de réduire la distance entre l'homme et la nature. C'est ça votre boulot, Jean-Marie, depuis des années.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'on contracte une alliance entre l'homme et la nature. Et Descartes disait « nous sommes maîtres et possesseurs de la nature ». Eh bien, écoutez, si nous étions maîtres et possesseurs de la nature, nous ne mourrions pas. Nous déciderions que, comme nous sommes maîtres, nous décidons que nous n'allons plus mourir. Or, il se trouve qu'aux dernières nouvelles, il y a encore des gens qui meurent. Donc nous ne sommes pas devenus totalement maîtres. Et il est probable que nous ne le serons jamais. Parce que la vie, parce que la nature, ça nous dépasse. Et qu'il y a des forces qui nous dépassent. Et que nous devons faire alliance avec ces forces dont nous faisons partie. Parce que nous avons complètement oublié que notre corps, c'est la nature.
Nous allons dédier donc à Descartes et aussi à vous, amis de France Inter, cette chanson de Charlie Winston.
I've always known, since I was a young boy, in this world, everything's as good as bad. Now my father told me, always speak a true word, and I have to say, that is the best advice I've had. Because something burns inside of me, it's everything I long to be, and lies, they only stop me from feeling free. Whoa, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo. Some may praise you just to get what they want. And I said, Mama, I am not afraid. They will take what they will take. And what would life be like without a few mistakes? Yay! Like a whole. Oh.
Like et Hobo, c'était Shirley Winston sur France Inter, choisie par Emmanuelle Chupin, notre programmatrice. Nous sommes donc en direct du festival Sciences Frontières qui fête ses 25 ans à Marseille. Nous avons la Méditerranée dans le dos, nous avons la baie, nous avons donc l'entrée du Vieux-Port face à nous. Non, mais c'est vrai que c'est absolument une merveille, on a du soleil, on est en chemisette, tout va bien. Jean-Yves Casga, donc, on le rappelle, directeur de ce festival. La semaine dernière, c'est vrai que j'avais reçu un homme qui s'appelle Bertrand Meutz, philosophe, et c'était pas non plus forcément très joyeux, puisque cet homme-là nous disait en substance qu'une société ne renonçait jamais à ce qu'elle était. Donc, sous-entendu, tant qu'on n'est pas vraiment au pied du mur ou bien dans le mur, eh bien, on ne change pas. Malgré tout, on a quand même, fort heureusement, quelques nouvelles intéressantes, puisque vous êtes un peu un défricheur d'avenir. Jean-Yves, qu'est-ce que l'on peut dire ?
Bah, nous, ici, on a essayé, parce qu'en plus, je l'ai écouté, cette émission, j'étais sur l'autoroute, et c'est vrai
que... Vous n'avez pas eu d'accident, c'est bon ?
Non, mais nous, on a toujours fait le choix d'essayer de proposer, de réenchanter le monde. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles.
Ce qu'on avait fait d'ailleurs avant aussi avec Jean-Marie, et après avec Serge Roux,
absolument,
je vous rappelle. Ce n'est pas non plus la tonalité générale de CO2.
Non. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance... général, à se dire qu'on va dans le mur, que c'est triste, ou bien à dire...
On peut braquer.
Retournons à l'âge des cavernes, parce qu'au moins, ça va résoudre le problème. Et je pense que ce n'est pas une réponse.
Non plus.
Ce n'est pas une réponse du tout. En revanche, si on est attentif à ce qui peut se passer, par exemple, là, ici, au festival, il y a deux axes. Il y a ce que nous sommes capables de faire nous-mêmes. C'est quoi l'effort ? Bah, par exemple, il faut transporter les 100 et quelques invités qui viennent. Ben jusque-là, on était effectivement peut-être moins attentif au type de véhicule. Là, on a réussi à avoir des amis qui nous prêtent des pousse-pousse hybrides. On a réussi à avoir un véhicule électrique. Les deux voitures thermiques sont des voitures à moins de 100 grammes. Ce sont des efforts qu'on peut faire. On a demandé à tous les invités de ne pas prendre l'avion et on a pris la SNCF, malgré mon pauvre Jean-Marie qui a passé des heures. On a eu la SNCF comme transporteur officiel parce que ça réduit l'impact carbone.
Ce que vous dites, c'est qu'il y a déjà de toute façon des choses qui existent. C'est vrai que tout ceci ne change pas le monde, mais ne pas le faire, c'est sûr que ça ne changera pas. Et on a besoin d'exemplarité, donc c'est aussi ça que vous faites.
Exactement, il faut alors c'est toujours un peu prétentieux de dire qu'on donne l'exemple,
mais enfin, non, mais...
on peut montrer que l'effort est faisable. Là, par exemple, on ne mange que bio.
Oui.
Ça n'est pas rien, parce que ça aide aussi les paniers marseillais, les AMAP. On essaie de travailler avec eux, de faire en sorte que quelque chose se passe qui montre qu'on peut au moins contourner l'obstacle.
Jean-Marie, vous commencez à avoir une espèce de certitude au fond de vous, parce que vous vous êtes dit, bon, on va faire appel à l'intelligence des gens, on va faire appel aussi, pourquoi pas, à leur spiritualité dans certains cas. Et vous dites, en fait, ça va être le consommateur qui va avoir les clés de l'affaire.
Oui, je pense ça. J'ai beaucoup réfléchi sur cette question. Qu'est-ce qui peut faire changer le monde ? Qu'est-ce qui peut nous faire sortir de la crise économique et écologique ? Je sais très bien que les économistes et les politiques, pour la plupart, voudraient revenir comme avant, je l'ai dit. Mais je pense que les consommateurs changent. Je vais publier un livre dans un mois avec M. Papin, qui est le patron du système U, sur la consommation. Et dans les hypermarchés, ils sont extrêmement frappés du changement de la mentalité des consommateurs. Ils veulent deux choses, les consommateurs. D'abord, ils ne veulent plus le futile, l'inutile et le superflu, première chose. Deuxième chose, ils veulent des gens qui leur causent dans les magasins, ce qui, pour les hypermarchés, est effarant.
Oui, parce qu'on vient du monde en
permanence. Parce qu'on a fait le contraire. On a tout fait pour qu'on ne cause pas et qu'on se serre dans les rayons. Mais maintenant, ils veulent poser des questions, etc. Et je pense qu'un changement radical dans les habitudes de consommation va avoir des conséquences très importantes au niveau de l'organisation de l'économie. Et ça, c'est en train de se faire en ce moment même.
Alors, vous avez un sondage qui est paru cette semaine de Mediascopie qui nous dit quels sont les mots qui suscitent le moins d'espoir d'aller vers un monde plus durable. Alors, ces mots qui ne suscitent aucun espoir, c'est 4x4, c'est consommation de pétrole, c'est OGM, c'est transport par camion, alors dans une moindre mesure, énergie nucléaire, automobile et transport aérien. Alors, en revanche, ce que ne veulent absolument pas les Français, c'est le mot décroissance. Ça, ils le considèrent comme étant un appauvrissement, même s'ils n'ont pas forcément saisi le sens de la philosophie qu'il y a derrière, mais peu importe, ils n'en veulent pas. Et il faut effectivement croissance économique, mais qui soit compatible avec un monde meilleur, sans retour en arrière, comme le disait Jean-Yves Casga, mais avec ces mots, on va dire, de soutenable et aussi de croissance verte. Donc c'est ça aussi que l'aspiration profonde des gens, là.
Ah, je crois que c'est un changement culturel très important et qu'en fait, non seulement on change de culture, mais qu'on va, je l'espère, bel et bien changer de civilisation. et qu'il y a des mots maintenant qui sont très porteurs, c'est solidarité, on en parle partout. Bon, ce matin, j'ai ouvert La Provence, qui est le grand journal de Marseille, il y a deux pages entières sur les initiatives prises en matière de solidarité dans cette ville, ce qui est quand même très remarquable. Je vois à Metz combien notre nouveau maire est branché à fond là-dessus. Les mentalités sont en train de changer. Bon, on commence à parler de l'amour. Enfin, j'ai été à la soirée organisée par Yannatius Bertrand au Grand Palais. Il y avait 1500 personnes. Ça n'a parlé que d'amour. C'est extraordinaire. Ça n'est plus le monopole des religions de parler d'amour. Le mot « vie » est un mot très fort qu'on aime bien. Puis alors, il y a les mots qu'on n'aime pas. Alors, quels sont les mots qu'on n'aime pas? Alors, je me suis amusé à réfléchir aux mots qu'on n'aime pas.
Ouais.
Il y a deux mots qui sont des mots qui peuvent se dégrader à l'usage. C'est le mot profit parce qu'il peut devenir profiteur. C'est le mot exploitant parce qu'il peut devenir exploiteur. Donc c'est des mots qui sont capables de s'user. Alors dans le langage politique, il y a des mots qu'on déteste. Protectionnisme, mal absolu.
Ah oui.
Il faut absolument que les barrières soient ouvertes avec la Chine pour qu'on reçoive plein de produits qui nous intoxiquent. Mais surtout, il ne faut pas faire de protectionnisme. Alors il y a aussi un mot qu'on déteste en politique, c'est le mot austérité. Si toute la France, y compris les multimilliardaires, ne mangeait plus que des carottes, il ne faudrait surtout pas dire que c'est de l'austérité. Il faudrait dire que c'est de la sobriété. Il y a un mot redoutable en politique aussi, c'est le démantèlement. Ah oui, démantèlement. Alors on suppose que c'est démanteler les services publics. Mais si on démantelait les multinationales, moi je trouve que ça serait très bien, quoi. Alors, j'aime pas le mot prédateur non plus. J'aime pas qu'on soit des prédateurs sur la nature. Décideur, c'est un mot qui me choque horriblement. Les décideurs, c'est-à-dire je suis un décideur et tous les autres sont des crétins. Le monde est divisé en deux catégories. Il y a ceux qui décident et les idiots. Mais dans une démocratie...
Il y a peut-être des petites nuances quand même, Jean-Marie,
oui,
entre les deux.
Oui, mais dans les démocraties, ce mot est tout à fait choquant, ouais. Parce que nous sommes tous des citoyens. Alors, il y a aussi un mot que j'aime pas du tout, c'est... assouvir ses envies. Je trouve ça terrifiant. Il y a un côté quasiment bestial. Mais le mot bestial est un mot méchant parce que les bêtes ne sont pas bêtes. Donc voilà une série de mots que je n'aime pas trop.
Alors, cher Jean-Marie, ce qu'on va faire, on va se faire un petit tour juste à côté puisque nous sommes à Marseille. On va vous emmener évidemment dans un massif que vous connaissez bien. Ici, c'est l'Estac qui est juste derrière. On va aller sur la montagne du Rove. Et là, moi, ça me fait très plaisir. Donc, on va réécouter un homme qui n'est plus de ce monde, qui s'appelle Jean-Claude Rey, qui était d'abord un très bon copain. Et puis surtout, c'est un raconteur naturaliste. Donc, on va un peu lui rendre hommage. Et voilà ce qu'il nous racontait. Vous allez voir la relation entre cette montagne du Rove et Jean Giono.
L'Estac, c'est connu mondialement maintenant grâce au film Marius et Jeannette.
Oui.
Hein. Tout le monde connaît l'Estac maintenant. Mais ce qu'on connaît moins, c'est à deux pas de l'Estac, c'est une petite commune qui s'appelle Le Rove. Le Rove, c'est l'endroit qui était célèbre entre Châteauneuf-les-Martigues et l'Estac, pour produire le fromage de chèvre qu'on appelait la brousse, et qui était vendu par les chevriers de cette commune dans les rues de Marseille. Alors, elle est là, la bonne brousse, elle est là, la bonne brousse, sucrée, salée, venez la chercher. Et il y avait les troupeaux qui suivaient, et les enfants venaient voir.
C'était une véritable friandise, c'est ça?
Oui, c'était considéré comme une friandise, c'est même devenu une rareté maintenant, parce que malheureusement, il n'y avait pratiquement plus qu'un chevrier en activité, m'a-t-on dit, au Rove. Et bien entendu, il y a quand même des chevriers retraités. Hein.
Oui.
Voilà. Seulement, le problème avec les chèvres, c'est que ça bouffe tout.
Oui.
Et ça a tellement bouffé.
Comme des broussailleuses.
Absolument, oui, comme les lamas. Les collines entre l'étang de Berre et la mer Méditerranée sont complètement dévastées par les animaux. C'est sec, ça a été raviné, on voit le calcaire blanc. Et c'est pauvre, quoi. C'est devenu très, très pauvre.
Et donc, ça a ému un personnage.
Ah oui, alors là, c'est une amie, Madame Denise. Elle m'a dit, vous savez pas ce qui se passe. Là-bas, sur les collines du Rove, au-dessus du village, derrière la Vierge de l'époque de Napoléon III, il se passe quelque chose. Il y a un ancien berger, Marius Guirand, qui doit avoir dans les 70 balais, peut-être un peu plus, qui se met à replanter la colline. Alors il sème des fleurs, des plants, il creuse. Dès qu'il voit un petit bout de terre, c'est pour lui, entre deux rochers, il met des arbres. Il va les chercher souvent dans les endroits où on va faire du béton, des immeubles. Il sauve en quelque sorte des bébés d'arbres qui vont être abattus pour cause de construction immobilière. Et il vient les planter dans sa propre colline.
Et c'est pas forcément quelqu'un qui a lu L'homme qui plantait des arbres, où on retrouve Elzéar Bouffier de Giono.
Absolument pas. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il ne sait pas lire. Mais en fait, Elzéar Bouffier, c'est une création gionesque extraordinaire. Oui. En fait. Parce que lorsque Giono a été contacté par les Américains pour sélection du Reader Digest, il devait écrire l'homme le plus extraordinaire que j'ai rencontré. Mais il ne savait pas à qui il avait rencontré. Il n'a rencontré que des gens extraordinaires, ce brave Jean le Bleu. Mais il a inventé un personnage, Elzéar Bouffier, l'homme qui plantait des arbres. Il racontait aux Américains que cet homme allait semer, planter et rénover les forêts provençales. Les Américains, saisis par ce personnage, ont envoyé des équipes de télé, de radio, des journalistes, des photographes pour traquer les Bouffier en action. Et comme il n'existait pas, Giono leur dit « Je crois qu'il était en train de planter des arbres du côté de Sisteron. » Alors de Manos, qui sont allés à Sisteron, Giono avait averti le copain qu'il les a renvoyés sur Saint-Étienne-les-Orgues. De Saint-Étienne-les-Orgues, ils sont partis sur la Brianne. De la Brianne, ils sont allés à
d'autres
lieux. Enfin, c'était un jeu de piste qui a duré 5 semaines. Et comme disait Giono, lorsqu'il racontait l'histoire, ils n'ont jamais rencontré les arbres bouffiers. Mais pour connaître la Provence, ils l'ont connu, ils l'ont bien visité, hein. Et donc, ce Marius Guérian, qui était un ancien berger, peut-être, sans avoir lu jamais de la vie Giono, a peut-être servi de modèle à aller savoir comment ça se passe dans la création. Hein. On peut parfois inventer un personnage qu'on découvre au détour d'un chemin.
Et donc, il avait son arrosoir, c'est ça? Il a l'air
rose. Oh, mais là, le Guérian, il a des réservoirs d'eau, il est rempli avec la pluie lorsqu'il pleut, il pioche, il lève l'herbe, il fait des petites murettes pour retenir la terre, pour que ces arbres puissent pousser. Alors, on trouve des amandiers, on trouve des abricotiers, on trouve des hibiscus, des fleurs, toutes sortes de choses qui repoussent au pied de la vierge, au-dessus du village. Mais c'est formidable parce que, à mon avis, c'est des personnages comme ça qu'on pourrait essayer de montrer un exemple aux enfants. Parce que lui s'est rendu compte, peut-être même inconsciemment, que sa vie de berger avait été fondée sur les chèvres. Les chèvres avaient brouté la montagne, ça bouffe tous les chèvres, même une montagne. Et là, il est en train de faire revivre une montagne. C'est une sorte de recréateur. À mon avis, il ne sait même pas qu'il a servi de modèle à Giono. Eh bien, ce n'est pas grave, en mémoire de tous les anciens chevriers du Rove, et surtout pour la beauté du geste de son pays natal. Il bêche, il plante, il sème. Il refait la nature. C'est pas beau, ça.
Voilà, donc une belle histoire signée Jean-Claude Rey, de cet homme qui était écologiste, peut-être même avant qu'on en invente le nom. On n'était pas non plus dans cette notion de puits de carbone avec les végétaux et avec les forêts. Ça, vous l'avez écouté avec beaucoup d'intention, Jean-Marie. Peut-être aussi, puisque l'Estac est à côté, une plante méditerranéenne qui vous tient à cœur.
On a évoqué Giono dans mon dernier livre, La raison du plus faible. J'ai pris une phrase de Giono. En tête du livre, il disait ceci: on va dans les étoiles et on ne sait pas ce qui se passe sur le talus qui est en face de notre maison. Alors allons sur ce talus qui est en face de Marseille, qui est la chaîne de l'Estac. Il n'y a plus d'arbres là depuis très très longtemps parce que on a beaucoup déboisé depuis que les phocéens sont venus s'installer à Marseille. Alors c'est calcaire, c'est gris et c'est gris blanc. Ça fait partie du très beau paysage du site marseillais. Et un botaniste de Marseille, monsieur Deleuil, a remarqué que sur ce calcaire, il poussait parfois trois plantes ensemble, un ail sauvage, une chicorée sauvage et une pâquerette sauvage. Et puis il a été très frappé de voir que souvent la pâquerette et la chicorée vivaient ensemble, souvent la pâquerette et l'ail vivaient ensemble. Et il s'est demandé, mais pourquoi diable la chicorée et l'ail ne vivent jamais ensemble? Alors il a fait des essais avec des jus de racines, et il a vu que dans le jus des racines d'ail, les graines de pâquerette germaient, et les graines de chicorée ne germaient jamais. Parce que l'ail met dans le sol des substances qui sont très méchantes pour la chicorée. Et on sait ce que c'est que la substance. Cette substance, c'est ce qui donne à l'ail son goût. Et la chicorée ne supporte pas ça. Et beaucoup d'autres plantes ne supportent pas ça non plus et sont mis en fuite par l'ail. Donc l'ail est très méchant. Mais la pâquerette, elle, est capable de réagir et de produire des substances qui neutralisent ce toxique. Donc elle s'installe gentiment à côté de l'ail sans avoir le moindre problème. Et comme elle a neutralisé les toxines, du coup, la chicorée peut venir participer à la fête, s'invite comme troisième dans ce couple, de sorte qu'on peut dire que la pâquerette fait de l'aide sociale pour l'ail, pour la chicorée. Et vous voyez ici qu'il y a
encore une coopération, une symbiose et en même temps un rejet.
Enfin, il y a les deux. Oui, il y a la coopération et la compétition, et ce sont les deux grandes forces qui sont dans la nature, dont nous n'avons retenu malheureusement pour la société que l'idée de compétition, et nous avons complètement oublié l'idée de coopération, et le futur, ça sera de développer l'idée de symbiose, de mutualité, de coopération et de solidarité.
Merci, cher Jean-Marie. Elisabeth Borédon, vous avez écouté avec beaucoup d'intérêt, donc, qui est directrice du laboratoire de chimie agro-industrielle de l'Institut national polytechnique de Toulouse. Et je tiens à dire tout de suite que ce fut le premier laboratoire à travailler sur des matières végétales, donc pour des valorisations non alimentaires, mais associé donc aussi à l'INRA. Et vous avez travaillé avec le monde vraiment de l'entreprise à une époque où ça ne se faisait pas du tout, quoi, entre université et monde de l'entreprise. Maintenant, c'est quand même une sacrée force.
Effectivement, quand le laboratoire a été créé en 1975, ce n'était pas du tout dans l'air du temps de travailler avec les industriels. Au contraire, je pense que les chercheurs qui faisaient cela, on les caractérisait, on disait qu'ils s'étaient vendus au diable. Donc il fallait faire vraiment la recherche très en amont, très fondamentale. Et puis l'idée très originale à cette époque-là était aussi d'utiliser la matière végétale comme matière première, alors qu'à l'époque, on faisait de la chimie à partir du pétrole, essentiellement.
Alors qu'est-ce que l'on fait maintenant aujourd'hui? Effectivement, sur quelle matière végétale vous travaillez?
Alors les matières végétales qu'on utilise sont pour l'essentiel des plantes donc annuelles, des céréales, mais donc des oléagineux aussi, des plantes à fibres, telles que le chanvre, par exemple. On travaille aussi sur les déchets du bois. Ce sont les plantes classiques, je dirais, actuellement.
Je reclique là sur la case chanvre. Donc, on s'en sert pour l'isolation. On s'en sert pour quoi donc,
Alors, le chanvre, on peut s'en servir effectivement pour faire des matériaux d'isolation, des matériaux aussi de construction. Vous avez également la possibilité d'utiliser l'huile à partir des graines, donc la chènevis, l'huile de chanvre. Et on a aussi toute l'industrie papetière, papier un peu spéciaux, et puis le cordage. Ce sont des applications très anciennes. Actuellement, les applications qui se développent, c'est effectivement pour le bâtiment, donc construction et isolation.
Je vois le Jatropha. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que ce Jatropha, en même temps, on se dit que ça peut être une horreur quand c'est un agrocarburant, mais à quoi il sert?
Le Jatropha, contrairement à ce que j'ai, les plantes dont je viens de parler, sont des plantes plutôt du futur, on va dire. Ce sont des plantes qui ne sont pas actuellement vraiment développées au niveau industriel, utilisées pour des applications industrielles. Ce sont des plantes une plante en particulier, donc, qui a été introduite donc, au Cap-Vert, au début des années 30, par les Portugais à l'époque. Actuellement, elle ne sert en utilisation, on va dire, domestique, classique. Elle sert essentiellement donc un petit peu en tant que médicament. Les racines servent pour soigner la lèpre. Vous avez aussi pour l'éclairage, l'huile pour l'éclairage. Très peu d'applications. Par contre, on s'aperçoit que l'huile, elle, par contre, a des propriétés intéressantes et peut remplacer les biocarburants. Enfin, elle peut servir de biocarburant.
C'est-à-dire qu'elle n'est pas en concurrence avec l'alimentation.
Non. L'avantage de cette plante, c'est qu'elle pousse sur des terres semi-arides. Et surtout, elle est toxique. Tout est toxique dans cette plante. Donc, elle n'est pas consommée par les animaux, surtout pas. L'homme ne peut pas la consommer. Et donc, effectivement, les applications qu'on peut en faire ne détournent pas les applications alimentaires, puisqu'elle ne peut pas servir pour l'alimentation à aucun moment. Et l'huile, en fait, actuellement, l'intérêt de cette plante, c'est lié à l'huile. L'huile qui, en fait, peut avoir les propriétés analogues à l'huile de colza, par exemple. Donc, on peut s'en servir comme biocarburant, entre autres, mais pour faire autre chose aussi.
Elle est très riche, je vois 25 à 30%.
C'est ça. Dans les graines, donc, il y a à peu près 3 tonnes de graines par an peuvent être produites. Et on retire 25 à 30% d'huile, l'huile de Jatropha.
Oui, c'est une plante que j'ai fréquentée très tôt dans ma vie, quand j'ai fait ma thèse en 1956 sur les plantes anti-lépreuses. et les racines. Absolument. Ouais. Et le jatropha faisait partie des plantes réputées antilépreuses. Mais ce qui m'intéresse beaucoup dans cette plante, c'est qu'elle fait partie d'une famille où il y a des toxiques très violents, avec lesquels on fait des poisons de flèche, traditionnellement en Afrique. Et la question que je voudrais vous poser, c'est est-il exact que ce jatropha réussit à pousser sur des sols si arides qu'aucune plante alimentaire n'y pousserait? C'est ce qu'on dit, et c'est vrai, ça?
Effectivement. Donc, c'est pour cette raison que cette plante, enfin, a priori, aurait un intérêt important à l'avenir. Et on commence à faire de la culture intensive de jatropha, on tente d'en faire, parce que là où elle pousse, les plantes alimentaires ne peuvent pas pousser. Elles peuvent rester plusieurs mois sans eau. C'est une plante qui résiste énormément à la sécheresse, qui ne demande aucun intrant et qui pousse et qui peut durer, sa durée de vie est 10 ans. À peu près, c'est un arbre qui peut durer 10 ans.
Donc, c'est très, très intéressant. Tout à fait. Parce que ça supprime l'idée que les terres agricoles vont être squattées par les agrocarburants.
Voilà.
Et si on peut utiliser des sols qui sont inutilisables pour l'alimentation, c'est évidemment extrêmement important.
L'avenir, les plantes de demain qui pourront être utilisées pour l'énergie, entre autres, et biocarburants, énergie, mais aussi d'autres applications dont on reparlera peut-être, pour la chimie en particulier, sont des plantes qui vont pousser dans des sols souvent qui ne sont pas en compétition avec des plantes qui servent à l'alimentation et qui demandent surtout peu d'intrants et peu d'intervention humaine. Mettons, c'est le cas aussi du miscanthus, même chose. Sans le miscanthus, il y a très peu d'intervention humaine. Ça ne demande pas de sol très, très riche. Le jatropha, vous avez aussi donc, des plantes, le canola, donc des plantes, le switchgrass, des plantes donc, très riches en matière sèche. Mm-hmm. Ce sont des plantes qui, en fait, voilà, demandent des terres peu riches, peu d'intrants, peu d'intervention humaine.
Qui donne beaucoup de fibres. Hein.
Et qui voilà, donc pour les plantes à fibres, voilà, qui donne beaucoup de fibres. Beaucoup de donc, sont des plantes avec un taux de matière sèche importante à l'hectare. Et donc, on peut utiliser pour l'énergie, effectivement, biocarburant aussi là, de deuxième génération pour les plantes à fibres. Mais on peut utiliser aussi pour faire de nouveaux matériaux. Il y a plusieurs applications qui s'offrent à nous. Et l'huile de jatropha, même chose. On n'est pas obligé de l'utiliser que pour les biocarburants. On peut utiliser cette huile pour en faire des tensioactifs, pour faire des lubrifiants, pour faire des huiles, enfin, etc. Des huiles consommation industrielle.
Vous comprenez pourquoi je vous ai réuni, Jean-Marie Pelt?
Oui, tout à fait.
Bien sûr, voilà.
Jatropha curcas. Cette famille botanique est absolument passionnante parce qu'elle réussit aussi des performances évolutives étonnantes dont nous parlerons une autre fois.
Mais absolument, cher Jean-Marie.
On fera une émission sur cette famille de plantes.
Vendu. Bon, on se fait une petite pause.
Il y a mille histoires à raconter.
Vous connaissez Mademoiselle Marseille? Vous connaissez Moussuté? Vous ne connaissez pas Jean-Marie? Je sais que vous ne connaissez pas. Vous allez connaître.
CO2, mon amour, pour replonger le nez des pollueurs dans leur propre caca. Jacques Higelin.
Mademoiselle Marseille m'a donné rendez-vous pour sortir avec elle, enfin, mais je ne sais pas où. La chercher, la chercher, il me faut la chercher, oh ouais. La trouver, la trouver, je dois la retrouver. Oh papa, je vais voir à Saint-Jean et au quartier du Panier. J'interroge les gens pour savoir où elle est. On me dit qu'on l'a vue vendre des limaçons. J'ai beaucoup ri les rues, j'entends pas sa chanson. Oh, famille et Marseille, montez ses escondes. Oh, famille et Marseille, Versailles est perdu. Remonte en canebière, le cœur qui s'emballe. Oh, l'on est vu hier, ouais, au palais de cristal. Mauvaise limonade, y'a plus que des musées, que des belles façades, mais rien pour s'amuser.
belle affaire. Il faut chercher partout, des collines à la mer. Ça fait un sacré beau, des calanques à la nette. C'est une histoire de fou, ça fait des kilomètres. Je suis sur les genoux. Enfin, mise et marxille, monte siège escondide. Enfin, mise et marxille, baisse un qui s'est perdue.
Moussuté sur France Inter, Mademoiselle Marseille. J'en profite pour vous signaler que le dernier numéro de Terre Sauvage, donc celui du mois d'avril, est en partie consacré donc aux calanques que vous connaissez bien ici, naturellement, quand on est Marseillais, puisque 65% des Marseillais vont régulièrement dans ces calanques qui seront bientôt parc national d'ici un ou deux ans. Et puis je ramènerai un son parce que demain nous allons faire un petit reportage dans ces fameuses calanques. Nous allons herboriser. Je ne sais pas si vous serez là, cher Jean-Marie Pell. Vous disiez, c'est marrant parce que vous disiez à Elisabeth Borédon, vous dites, ah bah vous me rappelez que je suis quand même botaniste à l'origine, quoi.
C'était... Oui, mais quand on retombe dans la botanique, je retombe dans mon milieu naturel.
Voilà.
Oui, l'origine, oui, tout à fait. Votre formation d'origine.
Bien sûr, voilà. Bien sûr.
Alors, on parle de cette chimie verte avec vous, donc Elisabeth Borredon. Peut-être d'autres exemples, les micro-algues aussi. Alors ça, c'est l'avenir. Enfin, c'est,
alors, on... l'avenir. Disons qu'effectivement, actuellement, il y a un grand boom au niveau des micro-algues. On dénombre environ une centaine d'industries qui existent déjà, qui se préoccupent de la culture des micro-algues. Alors pourquoi ? Ben parce qu'on pense que ça va être le biocarburant, effectivement, deuxième ou troisième génération, mais le biocarburant de l'avenir. Pour quelles raisons ? Eh bien, en fait, les micro-algues, comme on a dit tout à l'heure, ne vont pas occuper des surfaces utilisées pour l'alimentaire, puisqu'en fait, la culture micro-algues se fait soit en plein air, enfin, lagunage, ou bien en réacteur, donc à l'intérieur, en photobioréacteur. Donc, ça n'utilise pas de surface agricole. Deuxième avantage, la production en huile est très, très importante. Il y a des variétés d'algues, de micro-algues, qui peuvent aller jusqu'à 50 grammes par mètre carré et par jour de production en huile. Donc, en photobioréacteur.
Non, mais juste en comparaison, le colza,
c'est... Le colza, on est à 0,9 grammes par mètre carré et par jour. Donc, vous voyez, la différence est quand même très, très importante. Donc, c'est une culture, on va dire, une production intensive d'huile lipides, qu'on peut faire à partir de micro-algues. Par ailleurs, donc, il y a... On va dire que pour tout ce qui est système en plein air, lagunage, très souvent on associe cette culture de micro-algues à des industries qui fabriquent, qui produisent et qui émettent énormément de CO2. Voilà pourquoi des pétroliers, dans les industries pétrochimiques, s'intéressent aux micro-algues aussi. Parce que les micro-algues, pour pousser, donc pour croître, pour capter du CO2. Et s'il y a une émission de CO2 importante à côté, évidemment, on va faciliter la croissance de ces micro-algues.
Donc on imagine à côté, du côté de Fos, ça doit évidemment les intéresser.
Effectivement, et dans la région, il y a des projets de culture intensive de micro-algues. Il y a 4 projets en France, dont dans cette région ici. Alors, les micro-algues, en plus, il y a énormément d'espèces qui existent. Pour l'huile, effectivement, c'est très intéressant, mais il y a des variétés, mettons, qui contiennent également 40% d'amidon. Or, on sait que l'amidon, c'est la chimie du sucre. Donc, à partir de là, on peut faire, certes, du bioéthanol, mais bien d'autres choses. Donc, ce sont effectivement, on va dire, une ressource végétale du futur. On croit beaucoup aux micro-algues. Il y a beaucoup d'investisseurs actuellement qui spéculent un petit peu sur les micro-algues, en France, à l'étranger, aux États-Unis, au Japon, en Israël, etc. Qu'est-ce que ça va donner ? On ne sait pas trop, mais disons, c'est assez prometteur et on pense que d'ici moins de 10 ans, il y aurait quand même une production industrielle.
C'est intéressant, tout c'est possible hein, aujourd'hui, Jean-Marie.
Oui, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que dit notre ami, c'est que je rêvais à ma biologie d'aujourd'hui, qui est la biologie moléculaire. Alors, dans la biologie moléculaire, il y a l'ADN et les protéines.
C'est ça.
C'est très étonnant.
Protéines qui sont la brique de base, hein, toute façon,
bien
de la vie.
Hein, donc, qui sont des briques de base de la vie. Et on oublie souvent les sucres, vous avez parlé de l'amidon, on oublie les huiles, les lipides qui vont jouer un rôle très important. Et je pense que dans le domaine des énergies renouvelables, ces plantes vont sans doute pouvoir jouer un rôle tout à fait important. Parce que je pense que la priorité absolue aujourd'hui, c'est d'aller vers les énergies renouvelables.
Et il faut y aller, parce que là, effectivement, on a quelques rapports qui nous sont tombés dessus, et c'est quand même pas toujours joyeux.
Alors, je suis très, très frappé. J'ai fait le Grenelle de l'environnement, je l'ai fait avec foi, avec résolution, avec bonne volonté. Il nous a été dit à la fin du Grenelle que l'on allait investir autant dans la recherche en énergie renouvelable que dans la recherche en nucléaire. Et puis j'ai vu tomber récemment un rapport où les chiffres sont quand même désolants. En France, l'année dernière, 52 millions d'euros pour les énergies renouvelables et 477 pour le nucléaire. Donc nous n'avons pas fait encore la révolution scientifique et culturelle que nous devons faire, puisque nous avons prévu et nous sommes engagés à ce que les énergies renouvelables représentent 20% des énergies utilisées en Europe en 2020. Et si nous n'investissons pas vraiment très fort dans ce domaine, nous n'y arriverons pas. Or, ce qui m'a étonné dans ce rapport, c'est que ce rapport vient de deux parlementaires que je connais, l'un personnellement, l'autre...
Christian Bataille du Nord et PS et Claude Birot de Haute-Savoie UMP.
Absolument.
Qui sont tous les deux nucléocrates.
Qui ont toujours été les chantres du nucléaire en France. Et ils ont le droit de l'être, c'est tout à fait acceptable et respectable. Mais que ce soit eux qui aujourd'hui disent qu'il faut aller plus fort dans les énergies renouvelables, je trouve ça extraordinaire, très important, très positif pour le futur. Mais j'allais dire, allons-y, pour l'amour de Dieu, si nous ne voulons pas nous buter sur un réchauffement climatique dramatique.
Il n'y a pas que de l'amour, il y a des preuves d'amour, comme on dit. Hein,
c'est un peu ça, voilà. mais nous savons bien que le réchauffement est un danger très important et que les spécialistes sont plutôt pessimistes. Donc nous devons aller à fond vers ces énergies qui ne dégagent pas de gaz carbone.
Alors nous avons quand même un exemple tout à fait intéressant qui touche le littoral. Il se trouve que la semaine dernière j'étais du côté de Brest, donc là on fait un peu le grand écart entre Brest et Marseille, et j'ai rencontré Frédéric Danhé qui a écrit un formidable bouquin que l'on détaille de temps en temps et qui s'appelle « Quelle France en 2030 ?» Et dans « Quelle France en 2030 ?» Eh bien il y a aussi l'aspect du littoral. Donc c'est quelqu'un qui ose la prospective et qui nous parle de ce que pourrait être, ou de ce que va être, mais en tout cas de ce que pourrait être le littoral en 2030.
Les dérèglements climatiques ne vont faire qu'accentuer l'existant. Et l'existant, c'est quoi? C'est un quart de nos côtes qui sont en érosion, 10% qui sont en croissance, et le reste, 40-50%, qui ne bouge pas, à peu près. Donc ça veut dire que le quart des côtes françaises, déjà en régression, c'est-à-dire où la mer rogne chaque année un peu plus, eh ben, va être encore plus en régression. C'est-à-dire que le rythme d'érosion va s'accélérer. C'est-à-dire que si la mer grappille un mètre, hein, c'est le cas en Normandie, la mer grappille un mètre tous les ans, bah elle va peut-être grappiller 1m50, 2m, 3m, parce que le rythme s'accélère. Et tout ça pourquoi? Pour deux raisons. La première, s'il y a une érosion, c'est tout simplement parce que le stock de sable, comme le stock de pétrole, comme le stock d'eau propre, bah il est en quantité finie, il a été fixé il y a 6000 ans, et ça ne bouge pas. Donc il y a un phénomène naturel d'érosion, c'est-à-dire que la mer apporte moins de sable qu'elle n'en retire. Et là-dessus arrive le réchauffement climatique. Qu'est-ce qui fait le réchauffement climatique? Il réchauffe l'eau. Donc l'eau, la température en plus et l'énergie en plus. Donc là
il faut plus de place quoi, à l'eau, déjà.
Ben oui, c'est ça. Alors il faut plus de place. Donc l'eau monte, donc elle a accès à plus de terre. Et comme en plus elle est plus énergétique, parce que sa température moyenne a augmenté, ben, la houle est mieux formée, les vagues ont plus de creux, donc il y a plus d'énergie. Plus d'énergie sur une surface accessible plus importante, ça veut dire un rythme d'érosion accéléré. Concrètement, la Bretagne ici ne sera pas touchée, il n'y a que 3% des côtes qui sont en régression. La Bretagne, c'est du solide, c'est du granit, oui. Ça va aller. Non, entre la Normandie, le Mont-Saint-Michel et mon nord natal et la côte flamande, là, il y a déjà 85% du linéaire côtier qui recule, et bien il va reculer encore plus vite. De la même façon, dans le Languedoc-Roussillon, en Camargue et tout le littoral aquitain, on a déjà une érosion, cette érosion va s'accélérer. Conclusion, à partir de 2030, on pourrait commencer à voir. C'est même pas qu'on pourrait commencer à voir, mais de l'eau salée qui, de l'eau de la Méditerranée, qui en cas de coup de mer arriverait jusqu'à Arles, c'est-à-dire la dune du Pila, qui aura peut-être disparu à l'horizon 2030, peut-être, tellement le rythme s'accélère, ça veut dire des falaises qui vont tomber à l'eau en Normandie, et ça veut dire dans la région des Watergangs, c'est-à-dire la côte d'Opale, derrière Dunkerque, de plus en plus souvent l'eau de mer qui, même à marée basse, s'infiltrera dans les sols agricoles, qu'ils donc saliniseront, et ce qui rendra la terre de plus en plus souvent incompatible avec l'agriculture actuelle.
Ce qui veut dire qu'il y a évidemment une fois de plus un problème d'aménagement du territoire qu'il faut anticiper.
Mais oui, là quand même on sait ce qui va se passer, et on sait ce qui va se passer si on ne fait rien. Et si on ne fait rien, la Camargue par exemple est sous les eaux, avec les conséquences économiques qu'on imagine. La côte d'Opale sous les eaux, c'est 500 000, 600 000 personnes qui ne pourront plus travailler. Donc on sait, on connaît l'échéance, on sait ce qui va se passer. Donc on a tous les moyens que ça ne se passe pas. Donc ça veut dire investir maintenant. Ça veut dire, dans un premier temps, par exemple, pour la côte d'Opale, remettre des pompes, tout simplement, des pompes refoulantes qui, pour l'instant, sont en panne et appartiennent à l'État, et l'État ne veut pas les remplacer. Enfin, voilà, on est dans une situation administrative ubuesque. Mais ça veut dire ça, puis ça veut dire commencer à envisager un recul, tout doucement. On a le temps de le faire. Mm-hmm. C'est le recul des routes, c'est le recul des terres agricoles, c'est le recul des lignes haute tension, des tuyaux de gaz, c'est tout bêtement ça. C'est de la tuyauterie. Et puis, c'est aussi protéger les ports. Ports, le port de Dunkerque, le port du Havre, ils seront toujours là. Simplement, ça va creuser de chaque côté. Donc, il va falloir remblayer. Mm-hmm. Et tout ça a un coût.
Alors, on a parlé de la dilatation des eaux, donc qui prend plus de place. Si en plus, dans le système, on a de l'eau douce qui vient du Groenland, donc d'une calotte glaciaire, voire aussi alors de l'Antarctique, parce que là, c'est énorme, mm-hmm. c'est un nuage d'un continent. Mm-hmm. Là aussi, ça va effectivement faire bouger le système.
Bah, ça le fera bouger de deux façons. La première, c'est que si le Groenland fond, et on a l'impression qu'il est en train de fondre très vite, le rythme, tout ce que je viens de raconter, va encore s'accélérer, parce que là, on n'aura plus une hausse de 8-10 cm ou 50 cm à l'horizon 2100. Là, on arrivera au mètre, peut-être. Et là, ça dépasse tout ce que les modèles sont capables de prévoir.
On rappelle qu'un mètre, effectivement, de plus, c'est un trait de côte de 100 mètres en moins, à peu près.
Voilà, c'est ça, 100 mètres sur une côte à peu près plane, c'est la côte d'Opale, par exemple. Ouais. Hein, ne pas oublier que l'aménagement du territoire s'est fait pendant des siècles, et s'est fait à base de polder, hein, sur les côtes sableuses. La côte d'Opale n'existait pas au XIVe siècle, ça a été gagné sur la mer, à la sueur des hommes, donc ça peut tout à fait disparaître. Hein, parce que ce qui se passe en mer, c'est le symbole de ce qui se passe à l'échelle du globe. Il y a un phénomène naturel, qui est le réchauffement climatique, qui est la hausse du niveau de la mer. Il y a une part naturelle qui a été considérablement accélérée par l'homme. On a rajouté une variabilité artificielle à une variabilité naturelle, et du coup, on ne contrôle plus rien.
Voilà, donc Frédéric Danhé, que vous écoutiez, Jean-Marie Pell, donc « Quelle France en 2030 ?» chez Armand Collin. On parlera de la viticulture bientôt dans cette émission. Petite réaction comme ça
Écoutez, j'ai trouvé que c'était passionnant, j'ai envie de lire le livre, je ne vais pas le rater.
Alors, pardonnez-moi, donc, juste pour revenir quand même sur l'énergie tout à l'heure, Elisabeth Boredon, donc on parlait beaucoup d'énergie avec ces plantes, mais elles servent aussi à autre chose, cette chimie verte de demain.
Il n'y a pas que le secteur d'application d'énergie, il y a aussi tout ce qui est l'industrie chimique, il y a l'industrie chimique. Ces industriels comptent beaucoup sur la matière végétale pour remplacer le pétrole. Les industriels français d'industrie chimique se sont engagés en 2015 à substituer 15% du pétrole par des ressources renouvelables pour fabriquer leurs produits chimiques, pour des intermédiaires et des produits finis, donc y compris pour les domaines des polymères et des matériaux. Et aux États-Unis, c'est même 50% en 2050, donc vous voyez, les objectifs sont quand même très ambitieux. Donc on compte aussi sur matière végétale pour la chimie.
Jean-Marie, vous dites que l'écologie est la seule idée neuve du XXe siècle et qu'elle est absolument incontournable pour ce XXIe siècle. Donc dans ce merveilleux monde de dingue, on a fait quand même beaucoup de choses à l'envers. Quels sont vos espoirs aujourd'hui ?
Ben, qu'on arrête d'être cupide. Être cupide, c'est dire la banquise arctique fond. Donc chic, on va tirer du pétrole et du gaz du fond de cet océan glacial arctique, de sorte que quand on le brûlera, il y aura encore plus de gaz carbonique. Bien sûr. Donc on s'engage dans des
cycles. On rajoutera dans le système encore plus de chaleur.
Totalement non vertueux. Ouais. Bon, il faut arrêter ça. Il faut arrêter cette cupidité, ce monde de l'argent. Il faut peut-être découvrir qu'il y a aussi de l'humanisme. C'est très important. Et qu'il y a de la spiritualité. Mais je voudrais dire un mot là-dessus. Parce qu'on m'a posé une question hier. C'est quoi ? C'est de penser qu'il y a plus grand que moi-je tout seul. Le drame du libéralisme, c'est de dire il y a moi et c'est tout. Dès qu'on pense qu'il y a plus que moi parce qu'il y a les autres ou l'autre quand on est croyant, alors on sort de cet égoïsme et on va vers un plus grand que nous qui peut être la communauté humaine tout entière avec laquelle on partage la joie d'être ensemble et puis le divin si on est croyant, et c'est vers ça qu'il faut aller.
Merci Jean-Marie Pell, merci Elisabeth Boredon. Juste un tout petit mot Jean-Yves Casga, cette année 2009, le futur comme vous l'aimez, hein, c'est ça, je veux dire, comme vous l'aimez, un festival réussi, qu'est-ce que c'est Jean-Yves ?
C'est qu'il n'y ait pas besoin d'un festival suivant, parce que les gens auraient compris et qu'enfin on aurait résolu les problèmes. Et c'est vrai que je partage l'avis de Jean-Marie Pelt. Il y a une telle collection d'égoïsmes qui s'additionnent les uns aux autres que Je suis pas optimiste tous les soirs.
Bon, allez, on y croit.
Allez, on y croit.
On avance, mais bien sûr. Et donc, Science Frontière à Marseille, ça se poursuit, bien sûr, jusqu'à demain. Merci beaucoup à Patrice Lecomte, à Philippe David de France Bleu Provence, à Sophie Ledoré, Jean-Christophe Pinaza, Xavier Pestugia qui a réalisé l'émission, Denis Chessour. Vous souhaite un excellent week-end. Dans quelques instants, eh bien, les roses vous attendent. Je m'explique. Sylvie Bodineau et Jean-Claude Caissard sont des chercheurs et vous les retrouverez dans l'émission de Fabienne Chauvière, Les Saventuriers. Donc, tout savoir sur les fragrances, sur les roses, sur les odeurs, ça va être un véritable bonheur.